Nous allons entamer de ce pas cette table ronde du dimanche soir, donc, qui s'intitule « Héros de roman, c'est ton destin ». Avec, je vais commencer par là-bas, par Scott Lynch, l'auteur de la trilogie des salauds gentilshommes, et dont j'ajouterai que j'ai appris avec plaisir en l'écoutant lors de l'entretien qu'il a eu avec Jérôme Vincent, que nous allions enfin avoir un quatrième tome des salauds gentilshommes, donc j'en suis ravi. À côté de lui, Patrick Maxper, donc, qui est l'auteur de nombreuses séries. On l'avait connu d'abord avec pour la série des Hauts Conteurs qu'il avait écrit avec Olivier Perru. Et puis, on parlera plus ici d'une trilogie qu'il a fait ensuite qui s'intitule Les Héritiers de l'Aube. Et puis, du premier tome d'une série, j'espère que nous aurons bientôt un second tome, qui est la série Victor London, dont le premier tome était Lord Coruscant, et dont le dernier roman qui vient tout juste de sortir est Elphique. C'est ça. À côté de lui, quelqu'un que je pense vous connaissez tous maintenant, parce que c'est aussi un habitué des Imaginales, c'est Jean-Philippe Jaworski, qui s'était fait connaître d'abord sur la scène littéraire avec la grande trilogie des récits du vieux royaume qui est ressortie récemment en un seul énorme volume qui, j'ajoute, est un bonheur de lecture d'un bout à l'autre, et puis qui, depuis quelques années, nous régale avec Les Rois du Monde. Hein, donc, on avait commencé par Même pas mort, ensuite premier volume de Chasse royale, et le deuxième volume vient tout juste de sortir, il y a quelques jours.
Oui, il est tout juste sorti au début du mois de juin, en fait. Et, voilà. En fait, il est arrivé en avant-première aux Imaginales. Donc, il est là.
C'est la même chose pour Elphique. Voilà. Et vous voyez, c'est ça, les Imaginales. Il y a même des capsules temporelles qui font des allers-retours pour nous amener les livres en avance. Ça, c'est formidable. Et à côté de moi, François Rouillet, qui nous a donné un diptyque l'année dernière, qui s'intitule Métaquine, et qui, comme son nom l'indique, contient beaucoup de héros dont nous allons pouvoir parler dès maintenant. Alors, j'avoue que quand j'ai vu le sujet de la table ronde, héros de roman, c'est ton destin, pour moi, le héros, en principe, c'est d'abord l'homme qui brandit une épée et va tuer les dragons. Mais en lisant nos auteurs ici présents, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres manières d'être un héros. Comme de toute façon, le destin, il y avait plusieurs manières de l'assumer. Et que finalement, héros de roman, c'est ton destin, c'était peut-être pas si clair que cela. Alors, on va peut-être commencer avec Scott Lynch, parce que le héros de la trilogie des salauds gentilshommes, Locke Lamora, justement, est quelque part l'archétype du héros qui ne brandit pas son épée, qui est un homme brave, qui se met partout. C'est plutôt, Scott Lynch, vous allez nous décrire Locke Lamora, c'est plutôt quelque part un anti-héros.
And pardon my English, which is not much better than my French, but that is what my able assistant here is for. I should say my tutor, my language tutor. Locke was an effort to build a hero, or I should say a protagonist, that was as vulnerable as he was competent within his own spheres of competence. I did not want a plaster saint. I wanted someone who was flawed in many respects, someone who was brilliant in a pinch but very short-sighted. Locke is sort of the lazy person's version of the criminal genius, and he's criticized for it by those close to him in the books, that he is a person of immense natural ability who has perhaps never reflected adequately or justly on how easy he's had it because of the assistance of his friends, because of the situations he's been in. He is the archetypical prodigy who never had to work very hard until he was out in the real world. And Locke's version of the real world is, my gang has been murdered, my support system is gone, I'm all on my own. Spoiling the novel slightly, forgive me. But I mean, that was the human portrait that I wanted. I wanted a hero who was primarily mental and emotional and social in effect, and was quite inadequate with a blade in his hand, for the most part.
Alors, tout d'abord, pardonnez-moi mon anglais, qui n'est pas beaucoup meilleur que mon français, d'où mon assistante ou prof de langue également. Donc Locke, c'est un héros, ou plutôt devrais-je dire un personnage, que je voulais à la fois vulnérable et compétent. C'est loin d'être d'un héros parfait. Il a beaucoup de faiblesses. C'est à la fois un génie, mais il est également très fainéant. Du coup, c'est vraiment le génie criminel fainéant. D'ailleurs, ses amis lui en font le reproche régulièrement. Il a beaucoup de capacités, mais il réfléchit pas beaucoup. Et sa vie est grandement facilitée par ses amis. Il n'a jamais vraiment eu à travailler dur tant qu'il n'a pas rencontré le monde réel. Et ce que j'entends par monde réel, c'est le monde où son système de soutien a complètement disparu. Ses amis sont morts, il se retrouve tout seul et il ne sait plus s'en dépatouiller. C'est un léger spoiler. Mais je voulais un portrait humain d'un personnage qui soit humain, qui ait besoin d'être entouré et qui ne sache absolument pas se servir d'une arme. C'était l'idée générale.
Merci.
Et Locke, en fait, c'est un esprit brillant. Il monte des arnaques qui sont absolument extraordinaires, d'une sophistication remarquable. Mais le reproche que lui font ses amis... Et son maître dans le premier volume, c'est qu'il ne réfléchit, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Il monte l'arnaque, mais il voit pas les conséquences à plus long terme.
Yes, it is that adolescent adolescent inability to see beyond the immediate gratification and to realize that even immediate success may have long-term consequences detrimental to yourself and to others. And I think an important aspect of maturity is the ability to forecast consequences and act accordingly. And Locke does not have that ability to complete fruition in the first novel. hilarity ensues.
Effectivement, Locke, c'est un adolescent qui est absolument incapable de voir les conséquences de ses actions en dehors de ce qui va se produire immédiatement. Il ne voit pas les conséquences à long terme, que ce soit pour lui ou pour les autres. Et effectivement, quand on est un peu plus mature, c'est là qu'on peut voir les conséquences à long terme. Et Locke, clairement, en est absolument incapable, au moins dans le premier roman.
Alors, si l'on continue dans les personnages qui apparemment sont au début pas destinés à être des héros... tel qu'on l'entend, Patrick Maxper, Victor London, le malheureux petit orphelin de 13 ans dans le Londres de 1867, lui non plus, ça paraît pas être son destin quand on ouvre le livre.
Non, effectivement, lui il demande pas grand chose. Enfin, si, il aimerait bien le malheureux se tirer de l'enfer, l'enfer quotidien qui est le sien, puisque un orphelinat dans l'East End de l'Angleterre victorienne, je vous laisse imaginer combien drôlissime ça pouvait se révéler. Il aimerait juste donc se sauver, mais le destin va effectivement venir frapper à la porte. Comme souvent chez moi, finalement, mis à part la première saga des hauts conteurs qui, eux, assument, qui en fait, les hauts conteurs, pour faire très vite, sont des troubadours du XIIe siècle, mais des super troubadours, qui sont amenés à, certes, à affronter des menaces naturelles qu'ils n'avaient pas prévues, mais qui assument néanmoins leur destin complètement. Le dit destin consistant à compter de village en village et surtout à chercher partout dans le monde à réunir les pages d'un ouvrage mystique qui s'appelle le Livre des Peurs. Donc ils assument leur destin de manière tout de même assez intentinée, obsessionnelle. Quoi. En fait, ils sont des névrosés obsessionnels parce qu'ils pensent tout le temps à ce fameux livre et à ces fameuses pages qui finiront d'ailleurs par réunir. Mais mis à part les hauts conteurs, quasiment tous mes héros sont les victimes d'un destin pour le moins retors la plupart du temps. C'est le cas de Victor London, effectivement, qui va se retrouver plongé, qui se retrouve la proie de deux ordres occultes puissants qu'ils considèrent à tort ou à raison comme très importants pour arriver à leur fin. Ils vont se le disputer, et chacun prétendant évidemment qu'il est le gentil et que l'autre est le méchant. Et le pauvre Victor, il perd son latin qu'il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre.
Alors, Jean-Philippe Jaworski, vous aussi, dans les récits du vieux royaume, vous mettez en scène un héros, alors qu'il, lui, contrairement à Locke Lamora, sait tellement bien servir d'une arme qu'il est le maître assassin dans la République de Ciudadela. Là aussi, a priori, rien ne le destinait à devenir un héros.
Oui, c'est vrai. D'autant plus que c'est quand même un personnage qui, au début d'un récit, en fait, tue le héros du récit. Donc, il est le anti-héros par excellence. Mais en même temps, c'est un héros fabriqué. Il a certaines qualités qu'on attend du héros traditionnel, c'est-à-dire qu'il sait très bien trucider son prochain. Il a absolument pas la morale qu'on attend du héros traditionnel, puisque en fait, toutes les violences auxquelles il se livre ne le gênent absolument pas, surtout si elles lui rapportent de l'argent. Et en même temps, il va devenir un héros fabriqué, en ce sens qu'il est au service de puissants qui ont besoin de justifier leurs actes absolument criminels. Et en définitive, ce personnage ignoble, cet assassin librement inspiré d'un assassin bien réel, qui est Michelotto Corella, hein, l'homme de main de César Borgia, va finir par passer pour le héros de la République, alors qu'il est en train de servir un de ses fossoyeurs.
Et autre héros aussi qui ne semble pas destiné à cela à ses débuts. Et vous allez me corriger, est-ce qu'on peut même parler de héros, sauf peut-être au sens de héros personnage principal d'un roman, c'est Régis dans Métaquine, François Rouillet.
Oui, alors tout d'abord peut-être une petite précision, Régis est un des six héros, principaux, parce que c'est un roman choral qui met en scène six personnages, et six personnages qu'on pourrait qualifier du quotidien ou, disons, six personnages que l'on pourrait voir vivre actuellement dans notre présent. Le Métaquine, c'est une histoire d'un médicament qui est tout d'abord administré aux enfants, mais qui, dont les adultes s'emparent assez rapidement pour en faire des usages plus ou moins licites. Et autour de ce médicament vont se positionner six personnages. Je ne sais pas trop comment les définir, comment je les ai voulu, etc. Parce que dans le processus d'écriture qui a été celui de Métaquine, j'ai commencé à écrire le roman parce que j'ai un peu entendu la voix du héros qui voulait s'exprimer à la première personne. Et c'était un enfant. Et je l'ai écouté et en quelque sorte, j'ai traduit sa destinée sur le papier et j'ai commencé à voir le monde avec ses yeux. Et les autres héros autour de lui, alliés ou ennemis, se sont mis en place tout seuls autour de ce dialogue et ont mené eux-mêmes leur propre dialogue. Donc c'est difficile de parler de destin parce que qui dit destin dit maître du destin qui décide de ce que deviennent les héros ou pas. Je savais qu'il y avait une fin et qu'ils allaient tous s'acheminer vers cette fin. Mais au-delà de ça, je n'avais pas d'idée de la grandeur qu'allait prendre leur destinée et quel rôle ils allaient exactement assumer.
Et justement, on va en reparler parce que j'ai quand même noté dans mes taquines certains des autres. Et dans le cours de cette discussion, on va aller plus avant sur certains des autres personnages ou héros, parce que là, jusqu'à maintenant, je pense que les gens qui sont ici peuvent trouver ça assez désespérant. Il y a pas, c'est des personnages qui sont plutôt des anti-héros, tous ceux dont on a parlé, et donc vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ça ne répond pas du tout au sujet de la table ronde qui m'intéressait, mais il y a quand même certains héros dans vos œuvres qui, eux, on sent que c'est beaucoup plus leur destin. Alors, je vais revenir, par exemple, à Jean-Philippe Jaworski. Dans la série de Même pas mort et Chasse royale, Bélovez, quelque part, on le sent plus appelé à un destin de héros celtique mythologique. La preuve, c'est que, d'ailleurs, même Tite-Live en parle.
Voilà, lui, alors lui, il est vraiment prédestiné. Il est prédestiné de façon littéraire et historique, puisque ce n'est pas moi qui crée ce personnage. Hein. Il vient de l'histoire romaine de Tite Live, d'une page de l'histoire romaine de Tite Live, où Tite Live est le seul auteur latin à dire avant Brennus et les Sénons qui ont ravagé Rome en 390 avant notre ère, il y a eu des Gaulois qui ont envahi le nord de l'Italie, dirigés par Bellovèse. Bon, et il ne nous en dit pas beaucoup plus. En tout cas, j'ai ce personnage, c'est un conquérant, et ce qui m'intéresse, c'est de montrer, enfin de montrer, d'imaginer plutôt, ce qu'il a pu faire d'un Celte lambda, parmi tant d'autres, le premier conquérant qui s'empare de l'Italie du Nord. Donc, effectivement, tout le récit est conçu pour montrer la construction du héros. Ceci dit, comme c'est un personnage en plus qui vit dans une société archaïque, et qu'il appartient à l'aristocratie, même s'il a un peu déchu, dans les sociétés archaïques, le noble, c'est le guerrier, donc c'est le héros. Les historiens ont tendance à nous dire qu'en fait, la société celtique de l'Antiquité, en particulier celle du premier âge du fer, ressemble beaucoup à la société grecque mycénienne, c'est-à-dire à la société héroïque où l'aristocrate se définit comme étant un héros. Donc de toute manière, de naissance, socialement, Bellovèse est déjà prédestiné à être un héros, il se considère comme un héros, les autres guerriers qu'il rencontre se considèrent comme des héros, tout le monde est un héros là-dedans. Mais en plus, il a un destin supplémentaire, et dans une tradition qui est mythologique, et en plus, il y a la volonté, pas forcément bienveillante, d'un certain nombre de dieux qui ont besoin de pions humains, et quel meilleur pion qu'un héros ? Car un héros, avant tout, ça reste une victime.
Alors, victime aussi, bien qu'il soit là destiné à devenir des héros, mais on peut dire que c'est quelque part génétiquement parlant, ce sont les personnages des héritiers de l'eau, Patrick Maxper, parce que Alex, Laure et Tom, ils sont destinés, alors là c'est biologique.
Oui, oui, totalement. En effet, ils deviennent des héros bien malgré eux, contraints et forcés, alors en l'occurrence dans les héritiers de l'aube. Ils sont soumis à un odieux chantage par Merlin l'Enchanteur, qui, dans mon univers, combat effectivement pour les forces du bien, mais ne s'embarrasse d'aucun scrupule. S'il faut sacrifier des gens, ça se retrouve dans nos sociétés, dans les anciennes sociétés. Parfois, il faut en sacrifier 10 pour en sauver 10 000. Merlin n'hésite pas. Et il considère que les héritiers, qui sont 4 au total, la 4e héritière intervenant dans le tome 2, sont indispensables à sa quête, et donc il est soumis, oui, à un odieux chantage. Mais, comme tu disais, Jean-Luc, finalement, ces gens portent en eux le gène du héros, puisque, mis en situation, ils deviennent bel et bien de véritables héros. Non des anti-héros, plutôt des héros traditionnels, encore que les choses ne sont pas si simples. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Personne ne m'en voudra, j'étais en boîte la nuit dernière, et n'est-ce pas, nous sommes dimanche après-midi. Help, aide-moi. Non, ça veut dire aide-moi en français.
C'était la prédestination biologique.
Ah oui, voilà. Oui, parce que les héritiers de l'aube, en fait, sont les descendants, dans mon univers, des primo-sorciers, les primo-sorciers étant les premiers mages blancs de l'humanité. Je suis, sans en être un spécialiste, évidemment, je suis très, très intéressé par les mythologies celtiques et irlandaises. Les forces du mal sont essentiellement dans mes romans, qui constituent un univers partagé, globalisé. Ce sont les Fomorés, les dieux, ou les démons, ou les dieux, ou les créatures surnaturelles de la mythologie celtique irlandaise. Et leurs ennemis héréditaires sont, entre autres, les primo-sorciers, qui compte parmi eux, donc, ou plutôt parmi leurs alliés, ce Merlin l'Enchanteur qui finalement n'est pas très fréquentable, même si, encore une fois, il combat pour les forces du bien. Et les héritiers de l'aube sont les descendants directs de ces primo-sorciers. Donc eux, ils bénéficient doublement du gène du héros.
Alors, autre personnage, pour revenir à vous, François Rouillet, parce que justement, vous expliquiez que Métakine est un roman choral. Donc, il y avait pour moi Régis qui se retrouvait un peu là par la force des choses. Puis, il y a les gens qui forcent, en quelque sorte, leur destin suite aux circonstances. Et là, je pense à Clotilde et à Sophie, qui vont devenir des héroïnes anti-système et anti-société, grande société pharmaceutique. un peu là par la force des choses, elles se retrouvent, elles veulent faire ce qui est juste.
Voilà, Régis est l'enfant type, l'enfant dissipé à l'école, distrait, avec des problèmes de comportement et un environnement social défavorable. C'est l'enfant rêvé pour la prise de métaquine, parce que ça devrait le normaliser. Or, il résiste lui-même, et puis autour de lui, il va y avoir plusieurs alliés qui vont se manifester, au premier rang desquels il y a une vieille voisine qui est une neuroscientifique à la retraite, et puis qui a conscience tout à coup que la métaquine se distribue dans les écoles. Et la connaissance de la propagande pharmaceutique qui est faite autour du médicament via le système scolaire, qui l'ont adopté parce que certains politiciens pensent que c'est porteur. Donc elle va se révolter là contre et elle va avoir comme allié Clotilde, qui est une politicienne qui, elle, se bat déjà depuis quelque temps contre le principe de l'introduction de substances dopantes et chimiques à l'école. Donc on est dans une situation qui n'est pas tout à fait notre réalité, mais qui pourrait l'être si on extrapole un peu certaines tendances. Alors évidemment, l'industrie pharmaceutique est là derrière, mais je n'ai pas voulu faire de l'industrie le grand méchant loup et écrire un récit manichéen qui place d'un côté des héros positifs et de l'autre des méchants adversaires, mais plutôt s'il fallait tout à l'heure on parlait des forces du mal, etc. s'il fallait remplacer le bien par le mal, chez moi j'ai plutôt penser en termes d'offres et de demandes. Vous avez les promesses mirobolantes de l'industrie pharmaceutique qui promet un médicament qui est capable de transformer des enfants en petits génies. Et puis, vous avez en face un bon peuple qui, lui, espère des médicaments qui font des... Vous avez des promesses mirobolantes d'un côté et des rêves démesurés de l'autre. Et ces deux pôles sont appelés à se rencontrer, mais en même temps à s'opposer, etc. D'où la division de l'intrigue, la manière de nuancer un peu l'intrigue en distribuant un peu les points de vue entre une petite constellation de personnages.
Alors, justement, là, on peut revenir à l'Oklahoma et au Salaud Gentilhomme, parce que ce qui m'a frappé au début, c'est que dans le premier tome, c'est que Locke a essayé de se construire lui-même une image de héros. C'est la ronce de Camor, l'homme qui vole les riches pour redistribuer aux pauvres, sauf que bien entendu les pauvres voient jamais la couleur de l'argent qui vole, etc. Donc là on est quand même face à l'anti-héros qui essaye de se façonner une bonne image.
And there are passages in various books that discuss the creation of the myth of the Thorn of Camor. There's a passage in the third book in particular where we see the origin of this legend, in that it's Locke's friends making a joke about him and then promising to tell it in taverns, and he threatens to kill them if they do it. But I wanted to deal with the accidental or the irreverent creation of a myth rather than the sacrosanct and careful creation of a myth. Because a lot depends on how you say something and what you intend when you say it. So bear with me here. This is an American historical reference that might be a bit unfamiliar, but there's a... sorry. Je suis désolé. Not true. There's a famous battle in the American Civil War, the Battle of Bull Run, which featured a famous general called Stonewall Jackson. And allegedly the nickname Stonewall Jackson comes from a speech that another officer gave to his men because Stonewall Jackson was so inspirational. And he said to his men, "Look, there is Jackson standing like a stone wall. Let us determine to stand here and die, and we will conquer." Now, this has always been taken by advocates of, the heroic Southern cause to be, "Look how inspirational this man is. He will stop our enemies like a stone wall." But there were contemporary accounts from survivors of the battle that this was meant to be a criticism, because Jackson was supposed to be moving his damn brigade forward to assist his compatriots, and he wasn't moving. And when the officer said, "There's Jackson standing like a stone wall," I guess we're just going to have to fight extra hard and die here if we're going to overcome things. This criticism was turned into a legendary nickname that has stood for, you know, battlefield heroism for 150 years since. But the original reference, if accounts are to be believed, was not complimentary. And the power of such transmutation and the possibility of such transmutation just fascinated me. So in my own little way, I wanted to do that in the Gentleman Bastard sequence. The story that twists and turns and seems to come out of nowhere. Good luck.
Alors effectivement, il y a des passages où on parle justement du mythe de la ronce de Camor et de son origine. En fait, ce sont les amis de Locke qui ont plaisanté et qui se sont moqués de lui, qui ont inventé cette histoire et qui lui ont dit on va lui raconter ça dans les tavernes. Lui, il a dit non, certainement pas, si vous faites ça, je vous tue. Mais justement, je voulais étudier cet aspect du mythe qui est créé comme une blague et non pas un mythe qui est créé consciemment. Ça dépend comment on dit les choses et l'intention qu'on veut mettre derrière. Alors suivez-moi un instant, je vais vous parler d'une référence historique que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est la bataille de Bull Run pendant la guerre civile américaine. Il y a le général Stonewall Jackson, c'est un surnom qu'on lui a donné suite à un discours d'un autre général qui disait regardez Stonewall Jackson. Donc il se tient là comme un mur, parce que wall c'est un mur, okay. Donc on fait la référence, voilà, on va les combattre, voilà, on va suivre Stonewall Jackson, et c'est devenu une référence historique. Et en fait, il y a des gens qui ont survécu à cette bataille et qui ont raconté qu'en fait c'était pas du tout le discours qui avait été fait, que c'était une critique. Justement, on parlait du général Jackson, et quand on a dit que c'était un Stonewall, donc qu'il restait comme un mur, en gros, ça voulait dire, bah, vu que lui ne va pas se battre, nous, on va devoir se battre encore plus dur. Donc en fait, c'était une critique, et c'est devenu une légende, ce qui est quand même assez impressionnant, de voir justement le pouvoir qu'on peut avoir de changer un point de vue sur une histoire, cette mutation. Moi, ça me fascinait, et c'était exactement ce que je voulais recréer dans mon roman, le fait qu'à l'origine, c'était juste une blague, et c'est devenu une vraie légende.
Et alors, Scott Lynch, est-ce que finalement le vrai héros des salauds gentilshommes, ça ne serait pas plutôt Jean, le compagnon de Locke, celui qui lui sauve la mise et la vie en permanence, et qui donc assume son destin de sauveur?
Jean is that friend that always has their shit together. Jean is the rescuer, the one who shows up when your car is broken down, when you're stranded on the other side of the city, when everything has fallen apart, when you need help after your divorce. I mean, Jean is the archetypical friend who somehow has their life magically in order when yours is disordered. He's not saintly. He has his own problems, but he is... He's closer to the Buddhist ideal of a good human being than Locke is. He's got his I don't know what the hell the translation would be. His shit wired tight is an American version. You've got to keep your shit wired tight. Jean does. Locke does not always. I will spare you.
Okay. Alors effectivement, Jean. C'est l'ami qui a toujours ou pas. C'est l'ami qui a toujours la solution à vos problèmes, celui qui va débarquer quand vous êtes tombé en panne de voiture, celui qui va venir vous sauver quand vous êtes perdu à l'autre bout de la ville, celui qui va vous aider une fois que vous aurez divorcé. C'est vraiment le stéréotype du sauveur. Lui, il s'en sort plutôt pas mal. Alors, c'est pas non plus un saint, il a des problèmes également, mais je dirais qu'il est un peu plus proche de l'idéal des bouddhistes de ce point de vue-là. Et en gros, alors c'est une expression en anglais qui va être très difficile à traduire. En gros, faut se débrouiller pour que notre merde ça s'éparpille pas, qu'on garde tout bien ensemble. Jean y arrive, Locke n'y arrive pas. Really?
Bravo Hélène pour cette traduction, parce que vraiment. Alors là, je voulais qu'on fasse un petit peu le tour des différentes manières de se découvrir un destin de héros de roman. Alors, il y en a un tout dernier qu'on peut voir aussi, Patrick Maxper, c'est dans Elphick qui vient de sortir, où là, le personnage se transforme même physiquement.
Oui, tout à fait. Au départ, Aël, qui ne s'appelle pas encore Elphick, est un garçon victime d'un accident de voiture avec ses parents. À la suite de quoi, il se réveille dans le monde des neuf forêts, le monde des elfes, qui n'a pas grand-chose à voir, pour moi, avec la vision elfique de Tolkien. Ici, il n'est pas question d'elfes grands et blonds, même si quelques-uns peuvent être de haute taille. La plupart sont plutôt apparentés au petit peuple qu'on retrouve dans toutes les mythologies, y compris la celtique. Et Aël, devenant elfique, étant transporté dans ce monde, va subir... Encore une fois, par la volonté d'un destin contraire, on va subir plusieurs allers-retours. Il va devoir effectuer quelques allers-retours sur notre terre, dans notre monde, et se découvrir sur un lit d'hôpital, avec plein de tuyaux partout, dans le coma, tout ça, ses parents également. Et à partir de là, l'enjeu devient donc clair pour lui à réussir à se sauver, si du moins il n'est pas déjà mort, parce qu'il est effectivement, comme nous-mêmes à sa place, il se demande s'il est... pas devenu subitement dément, s'il rêve, s'il est mort, si c'est ça l'au-delà, il n'imaginait pas du tout de cette manière, tout ça et tout ça. Et donc l'enjeu va consister à se sauver, et effectivement, il devient un être hybride qui sera vite appelé le guerrier des mondes, puisqu'il appartient à deux mondes et qu'il combattra pas tout seul avec une jeune elfée. Chez moi, les elfes filles seront appelées des elfées. Combattre avec une jeune elfée, à la fois dans ce monde des neuf forêts et sur Terre. Mais au-delà de la magie et de l'action qui prédomine dans ce roman, je voulais aussi proposer une réflexion un peu plus sérieuse, entre guillemets, sur l'histoire officielle et sa déconstruction, puisque pour moi, chez moi, le peuple des elfes, en fait, a fréquenté par le biais de passages de portes druidiques ou équivalentes, a fréquenté les elfes ont fréquenté les humains voici très longtemps, et il en est ressorti qu'au bout d'un moment les leaders elfes ont fini par fermer les passages parce que ils estimaient que les humains étaient vraiment beaucoup trop un exemple beaucoup trop nocif pour les elfes. Donc pour les elfes, les elfes considèrent que les humains se sont montrés, ont montré tout un tas de vilains défauts, et que si eux-mêmes se sont mal conduits parfois, c'était bien la faute des humains. En réalité, Elphick va découvrir qu'il n'en est rien, que les elfes se sont très mal conduits eux aussi, qu'ils étaient par exemple, qu'ils pratiquaient l'esclavagisme dès la Grèce antique, conjointement, main dans la main avec les humains, et que ça a continué au cours des âges jusqu'à l'essor du commerce triangulaire. Donc voilà, d'un côté il y a la vérité officielle, et Elphick va découvrir que finalement les elfes sont issus d'une société qui s'est construite, qui s'est enrichie sur l'esclavagisme, comme nos sociétés modernes finalement, puisque il n'a pas besoin d'aller très très loin, on peut reculer de 200 ans à peine pour avoir un exemple complètement, alors esclavagisme, génocide et compagnie, mais en tout cas un enrichissement et la fondation d'une civilisation basée sur la destruction de l'autre. Voilà. Car oui, je ne fais pas qu'écrire sur la magie et des gens qui se battent avec des oreilles pointues. Je sais être sérieux, moi aussi, mesdames et messieurs.
Alors, justement, nous sommes tous ici entre gens sérieux. Nous avons fait un petit peu le tour, on a vu les différents types de héros qui apparaissaient dans vos romans, etc. Et comme nous avons la chance d'avoir quatre démiurges, parce que vous êtes les dieux de vos personnages, vous êtes les auteurs qui contrôlaient leur destinée, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que justement le destin de vos héros s'impose d'abord à eux, mais aussi sans doute à vous. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Je viens de parler, je laisse donc mes camarades. Bon, Jean-Philippe Jaworski.
Ça dépend beaucoup des personnages. Hein. Ce qui est certain, c'est que de la même façon, alors je vais prendre une analogie païenne. Dans la mythologie, les dieux peuvent avoir des problèmes avec les héros. Dans le domaine de l'écriture, l'écrivain peut avoir des problèmes avec ses héros. Il y a ceux qui ne sont pas coopératifs, il y a ceux qui jouent des coudes pour exister. Il y a ceux qui s'imposent, effectivement. Si je reprends l'exemple de Benvenuto, c'est un personnage qui s'est vraiment imposé à moi. Imposé à moi de différentes façons. Premièrement, parce que je m'étais donné des contraintes dans une série nouvelle où je devais traiter des archétypes. J'avais traité des archétypes qui m'étaient familiers, qui étaient le paladin, le barbare, le prêtre. Mais je me disais, je peux pas passer à côté du truand, et j'avais pas d'idée. Donc j'avais écrit une page. J'avais très mal commencé ma nouvelle puisque je ne savais pas où j'allais. J'avais perdu cette page, je l'avais oubliée. Et un an après, par hasard, j'ai retrouvé, et c'est la voix du personnage qui s'exprimait à la première personne qui m'a frappé en me disant « Ah, il faut quand même que je le récupère ». Donc il est revenu vers moi. J'ai écrit une nouvelle à son sujet, et comme j'essayais de placer ce recueil de nouvelles auprès d'un éditeur tout en sachant que les nouvelles, ce n'est pas vendeur, donc que j'aurais du mal à le placer, je me suis dit, il faut qu'avec le recueil de nouvelles, je propose autre chose à l'éditeur. Donc, je propose un synopsis de roman dans le même univers. Et comme j'avais un optique qui était purement mercantile et commercial, et que je me disais, il faut que je place mes bouquins. Donc, j'ai demandé à mes premiers lecteurs, dans les nouvelles, quels sont les personnages que vous préférez ? Quelles sont les nouvelles que vous préférez ? C'est ce personnage-là, Benvenuto, qui m'était le plus étranger, qui était préféré par les lecteurs. Donc, il s'est vraiment imposé. De la même façon, dans la narration, gagner la guerre, c'est un pavé. Hein, en poche, ça fait presque 1000 pages. Mais c'est parce que c'est lui qui parle. Et il est bavard. Donc, il fait partie des personnages, vraiment, là, pour le coup, qui sont imposés. Quoi.
Et Bélovez ?
Alors, Bélovez, donc, c'est moi qui ai été le chercher, là, pour le coup. C'est moins Bélovez, en fait, qui s'impose que d'autres personnages qui sont autour de lui. Parce que bon, lui, j'ai été le chercher chez Titlive. C'est un vrai problème de construction d'un personnage qui nous est étranger parce qu'il est très ancien. Mais à partir du moment où je l'ai conçu, à part les deux autres personnages de sa famille qui sont cités par Titlive, qui sont son oncle Ambigat et son frère Ségovez, il a fallu construire sa famille, ses proches, etc. Et là, il y a certains personnages qui ont insisté pour exister. Alors. Je ne veux pas en dire trop. Il y a un personnage que j'ai tué, vite, ce qui était encombrant, et il revient là, parce qu'il voulait revenir. Hein. Donc, il y a des personnages qui jouent des coudes. Comment expliquer ça sur le plan psychologique ? Je pense qu'il y a une explication littéraire, je cite souvent Julien Gracq qui dit que le roman a une pente, et que, en fait, quand on a un bon sujet, c'est que le roman a une pente qui nous force à écrire certaines choses. Et je pense qu'il y a certains personnages en fait, qui s'accordent avec la pente du roman, donc qui sont très forts. Il y en a qui sont très gênants parce qu'il y a des personnages forts qui vont contre la pente du roman. Dans Gagner la guerre, c'est Clarissima hein, qui était vraiment contre la pente du roman. Donc, il y a ça d'une part, et puis d'autre part, j'incline à penser, il y avait quelqu'un qui m'en parlait tout à l'heure, une lectrice qui m'en parlait tout à l'heure, qu'il y a des personnages qui nous séduisent. Une fois qu'on les a posés sur le papier, on est bien avec eux, ou ils nous énervent, ou ils nous font rire. Et donc, parce qu'ils nous ont séduits, on les développe.
Je voudrais renchérir avec vraiment insistant sur l'autorité que les héros ont sur les auteurs. Et même sur, un peu comme un contre-exemple de votre consultation de lecteur, mon personnage, Régis, qui est encore un enfant de 12 ans, était un des premiers que j'avais mis en place dans le roman. Et j'ai aussi fait appel à quelques lecteurs amis pour me donner leur avis sur l'enfant. Et ils ont été 2 sur 3 à me dire, écoute, ça ne va pas du tout. Ce gamin, il parle avec un langage d'adulte. On n'y croit pas, il est trop savant pour son âge, etc.
Alors j'étais bien embêté parce que je lui avais fait dire plein de choses utiles à la suite du roman, et là je devais le rendre tout à coup beaucoup plus naïf, beaucoup moins apte à comprendre les rouages de l'histoire et de l'expliquer au lecteur, etc. Donc j'ai dit bon, ben, il faut que je réécrive ces dialogues, ces paroles, ces pensées attribuées à cet enfant dans un langage plus simple. Et puis non, il a résisté, il n'a pas voulu rentrer dans son âge, il n'a pas voulu que je lui donne un langage de d'enfant. Il m'a mis au défi, il m'a dit plutôt que de me faire parler comme un bébé, tu vas au contraire expliquer au lecteur pourquoi je parle comme un adulte. Et ça a été le défi, et ça a été, pour moi ça a été un peu une stimulation de donner au personnage une dimension un peu inhabituel, un enfant qui est surdoué, et expliquer pourquoi il est surdoué, et pourquoi est-ce qu'il parle comme un adulte, pourquoi est-ce qu'il a telle révélation plutôt que telle autre, etc. Donc les héros mènent vraiment le bal.
Juste un tout petit mot qui est un exemple très célèbre, mais qui montre que les personnages peuvent être tyranniques avec leurs auteurs. C'est la relation entre Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Conan Doyle en a marre de Sherlock Holmes, il tue Sherlock Holmes. Le public porte le deuil, on en veut à Conan Doyle, et finalement, Conan Doyle est forcé de reprendre Sherlock Holmes. Il y a eu d'autres cas comme ça, pas du tout dans la fantasy, mais Beaumarchais, c'est un peu la même chose avec Figaro. Hein. Il fait une pièce, Le Barbier de Séville, le personnage est tellement populaire qu'on harcèle Beaumarchais pour qu'il écrive la suite. Donc parfois, le personnage, avec la complicité criminelle du public, finit par devenir un despote, hein, pour l'écrivain.
Scott, maybe you have. Pardon. Scott, vous avez peut-être quelques. Locke, c'est votre. C'est vous le marionnettiste ou pas?
Well, I'm not tired of the little bastard yet, so it's. I like to think our working relationship is still good. And when it comes to heroism and my, you know, my powers as a god, or at least a demiurge, at least as the architect of these characters' sorrows. Writing as someone who is a humanist who likes to place a lot of value on the notion that we're in control of our own destinies to a certain extent. A fascinating and comforting philosophy, which I'm sure a lot of passengers on the Titanic would be really eager to hear about. Or someone trapped on the Western Front during the Great War. There's a concept in emergency management, in firefighting and so forth, where I come from, about dealing with survival situations, whether you can run from them, whether you can shelter from them. And one of the cardinal rules of survival situations is that some situations are inherently unsurvivable. And so it is with you can't be under a building that is collapsing on top of your head. It's not a situation a physical being can survive. And so it is with destiny. Some destinies dropped upon a character cannot be avoided or circumvented. If you drop a disaster on someone who is brave and generous, they're going to attempt to help other people. If you drop a disaster on a coward, they're going to attempt to escape. So there is an element of decision, of self-actualization, of humanity, but we don't control the circumstances that we face. We don't control the decisions we will have to make. And that's how I look at it as an author. The character has a certain amount of autonomy, true to their nature, but what I throw at them is, in a sense, me placing my hand on the scale of fate in a very godlike fashion.
Alors, pour l'instant, j'en ai pas marre de ce petit salaud, n'est-ce pas ? Je trouve qu'on a encore une bonne relation de travail, ça fonctionne. Effectivement, j'ai un peu le pouvoir d'un dieu ou d'un demi-dieu, mais quelque part, cette idée que l'on peut contrôler sa destinée, cette philosophie qui nous réconforte, je pense qu'il faudrait peut-être en parler aux gens qui étaient sur le Titanic. Je suis pas sûre qu'ils seraient d'accord, ni ceux qui étaient sur le front occidental de la Grande Guerre. À mon avis, pareil, ils seraient pas tout à fait d'accord. Et j'ai été pompier, et il y a un concept chez les pompiers par rapport à la survie, c'est soit on fuit le danger, soit on se met à l'abri. Et il y a une grande règle, c'est que il y a des fois, on ne peut pas survivre. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment qui s'effondre sur vous, vous n'y pouvez rien. Enfin, il n'y a rien à faire, vous allez y rester. Et pour la destinée, c'est un peu pareil, je trouve. Il y a certaines destinées, on peut juste pas les éviter. Si quelqu'un se retrouve face à un désastre, si la personne est courageuse, elle va essayer d'aider les autres. Si c'est quelqu'un qui n'a aucun courage, qui est un lâche, merci, il va juste essayer de s'enfuir. Il y a une part d'humanité qui joue un rôle dans ce qui se produit, mais on n'a pas un contrôle sur vraiment ce qui va se dérouler comme situation. Et effectivement, mes personnages ont une certaine autonomie, mais d'un autre côté, ce que moi je leur fais subir, ils n'y peuvent rien. Et là, pour le coup, je suis un peu la main de Dieu qui joue avec eux. Là, il n'y a pas de doute, c'est pas de leur faute.
Merci. Patrick Maxper, vos personnages alors? Oui. Ils assument leur destinée.
Ah oui, oui, pleinement, pleinement. Et il est vrai que, dans mon cas en tout cas, la seule manière en général qu'ils ont de s'imposer à moi, c'est quand ils deviennent séduisants, effectivement. Car hélas, dans mon cas, je ne suis pas dans le cadre de Conan Doyle, hélas. Mais ça ne tient qu'à vous, cher public. Venez, venez, et nous pouvons en reparler. Et bon, plus sérieusement, c'est pour les Hauts-Compteurs, par exemple, c'est Roland, le jeune Roland, donc, qui, au début de ses aventures à 12 ans, qui était le héros principal. Et très vite, je me suis pris d'une très grande affection pour son professeur, Mathilde, à tel point que c'est elle qui est devenue, pour moi, le personnage le plus important de la saga des Hauts-Compteurs, même si, évidemment, c'était Roland le héros, donc... Je mettais Roland en avant comme il le fallait, mais Mathilde est passée de personnage secondaire très important à partenaire pleinement égal avec Roland très vite à mes yeux. Voilà, mais néanmoins, c'est quand même moi qui reste le maître absolu. Si je veux tuer, je tue. Quoique, comme disait, pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe, je me souviens qu'un soir, je me préparais justement à tuer un perso, j'ai entendu. Ne fais pas ça. Je vous assure. Après, je ne sais pas, je me suis évanoui. Ah. Mais il m'est arrivé aussi, j'en termine, d'éprouver une réelle peine en tuant un personnage, parce que c'était nécessaire, effectivement. Il fallait en passer par là. Je m'étais réellement attaché. Je me revois encore éprouver du chagrin au moment même où je tapais sur mon clavier les lignes qui décrivaient sa mort héroïque, mais toutefois définitive. Donc voilà quoi. Et si on a quelques secondes, j'aimerais très vite apporter une petite précision. Je me souviens qu'il y a 2 ans, pour la dernière table ronde à laquelle je participais, je crois que c'est la toute dernière, Stéphanie Nico m'avait demandé s'il était facile ou pas de décrire à 4 mains, en l'occurrence avec mon vieux pote Olivier Perru, sur les Hauts-Compteurs, et je lui avais répondu que oui, c'est, du coup, ça avait été très facile parce qu'on ne l'avait pas fait, on n'a jamais écrit à 4 mains. Nous avons effectivement bâti l'univers ensemble des Hauts-Compteurs, mais nous pensions en fait au départ écrire lui un tome, moi l'autre, lui, etc. etc. Et en réalité, donc Olivier a écrit le tome 1. Et il se trouve qu'ensuite, il avait pris beaucoup, beaucoup d'engagement. Il n'a pas pu revenir sur la série comme nous le souhaitions tous deux. Et donc, j'ai écrit le reste, quoi, le tome 2, 3, 4, 5. Olivier, parvenant tout de même à écrire les 2 premiers chapitres du tome 4 et l'épilogue de 30 pages du tome 5. Mais c'est en gros ce que j'avais répondu. Puis après, on s'était coupé parce que c'était fini. Et je voulais, cette année, je m'étais dit que je préciserais tout de même que même si Olivier a été finalement peu présent sur la série par la force des choses, son rôle a été essentiel puisque c'est bel et bien le tome 1 qui a remporté 2 prix, le prix Elbakin et ensuite le prix des Incos, qui nous a apporté tant de visibilité puisque nous arrivions, nous, du néant, quoi. On était auteur BD et grâce au prix des Incos et au prix Elbakin, on a acquis très vite une relative légitimité et une certaine visibilité. Donc voilà, le rôle d'Olivier a été quand même essentiel. Disons qu'on a été tous les deux indispensables puisque sans prix des Incos, bon ben voilà, ça aurait pas été pareil, et sans moi, ben la saga s'est arrêtée au tome 1, donc voilà. Et j'espère que je vais éviter le procès, parce que c'est de ça dont il me menace, en fait, si je procédais pas à cette intervention. De toute façon, j'ai tout enregistré, hein, et j'espère qu'on va en rester là. Je plaisante, hein, bien sûr.
Absolument. Donc, parce que l'heure a tourné quand même très très vite. Alors, un petit mot de, je vais vous demander un petit mot de conclusion. Donc, effectivement, héros de roman, c'est un destin. J'allais dire, c'est parfaitement approprié. Donc, c'est écrit de manière immuable. Qu'en pensez-vous? C'est écrit dès le démarrage?
Ça dépend de la forme du roman. J'ai une amie qui est mon ancienne prof de français qui me dit, mais moi, de toute manière, j'ai l'impression de vivre dans un roman. C'est donc un personnage de roman qui n'a rien d'écrit. C'est peut-être un peu le sentiment qu'ont les gens qui sont des rôlistes comme moi, hein, qui donnent vie à des personnages de romans qui ne sont pas écrits. Même pour ce qui est des personnages écrits, en fait, moi je pense que en fonction du lecteur, finalement, leur existence n'est pas si écrite que cela. Puisque les perspectives que vont apporter chaque lecture sur le texte vont établir toute une série de variations autour du personnage. Donc, non, j'ai pas une vision très déterministe, moi, du personnage de roman.
Je termine très vite. En un mot, moi, je crois en la destinée, mais en une destinée que l'on peut toujours forcer. Voilà. On peut, finalement, on reste quand même maître de son destin, peut-être pas, mais en tout cas de son existence, quoi. Ça ne tient qu'à nous, quoi qu'il en soit.
À propos de destinée, concernant les personnages que j'ai mis en scène dans mes taquines, j'avais commencé à écrire quelques chapitres de ce qui allait devenir le premier tome du roman. Je ne savais pas du tout quelle longueur ça allait prendre. Et puis, pour aller plus vite, j'ai écrit la fin. Et puis après, il a fallu... Donc le destin des personnages était en quelque sorte fixé par la fin du roman. J'avais une vague idée de ce qu'allait se passer entre deux. Seulement, la vague idée, elle m'a pris 850 pages. Il a fallu suivre l'évolution des personnages. Et chose des plus intéressantes, alors que la destinée de la fin, le dernier rebondissement, truc que je vais bien entendu pas vous révéler, il était fixé. On y arrive, je suis finalement arrivé par une toute autre voie qui a donné un tout autre sens à cette même fin. Et j'ai dû trouver un autre sens, une autre explication à ce que j'avais prévu d'abord. Donc même si on a un destin qui est tout tracé, on peut y arriver par des voies tout à fait tortueuses et on peut au final le changer quand même. C'est ça qui est passionnant quand on écrit une histoire avec des personnages comme ça que l'on mène d'un bout à l'autre d'une destinée romanesque.
Scott. And literary characters in particular, their destiny, their lives are a bit like Schrödinger's cat, if that's a... I'm sorry, I just did the worst thing I've done to you all time. Their destiny is mutable. They have... we can do whatever we want with them. We can force them into whatever box we desire. But they have strange appeals. You know, a character may die in the first draft and come back to life in the second. It may turn out to be a great mistake. I was definitely going to kill somebody in the sixth book in my sequence and was talked out of it by my editor, who was right. Sherlock Holmes died and then lived again. There may be commercial appeal. No, you actually can't kill that character. If you do that, no one will be interested in your series anymore. So we can attempt to assert control, but there is this weird game that the universe plays, even with our godlike abilities to move these characters around.
Alors effectivement, en ce qui concerne les personnages de littérature, ils ont une certaine destinée, mais c'est un peu comme le chat de Schrödinger, c'est ça, non? Voilà. C'est-à-dire qu'on peut toujours changer ça. Par exemple, parfois, sur mon premier brouillon, je vais tuer un personnage, et puis quand je vais réécrire, finalement, je ne vais pas le tuer. J'avais un personnage que j'avais bien l'intention de tuer dans le sixième roman. Mon éditeur m'a dit non, ne fais pas ça. Donc finalement, j'ai changé d'avis. C'est comme pour Sherlock, hein, il était mort et puis ben, on a mis tellement de pression sur l'auteur qu'il est revenu à la vie. Donc finalement, il y a peut-être un aspect commercial qui peut changer la destinée des héros. C'est-à-dire que si tout le monde me dit que ben, si tu tues tel personnage, je ne lirai pas tes romans. Bah, je ne vais pas le tuer, hein. On ne va pas non plus on va pas s'arrêter à ça. Et donc, on peut essayer de contrôler la destinée de nos personnages, mais on ne fait qu'essayer, et même si on a un peu la valeur d'un dieu pour eux, on ne les contrôle pas totalement.
Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir éclairés sur le destin des héros. Nous allons maintenant conclure et retourner à notre dessein qui est d'être lecteur de tous ces héros. Et merci beaucoup à tous les quatre.
Merci à tous. Merci à toutes et à tous.